Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, on va parler du gros leak d'Insomniac Games qui révèle plein d'infos. On va aussi avoir la crise dans le jeu vidéo et peut-être quelques chiffres, quelques pistes pour donner du contexte. Et les suites du procès pour harcèlement de l'État de Californie contre Activision Blizzard qui prend une tournure un petit peu inattendue. C'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, épisode numéro combien ? Alors, c'est l'épisode numéro 326. Nous sommes en décembre 2023, c'est le dernier épisode normal de l'année. La semaine prochaine, vous aurez notre épisode GOTY, tous les meilleurs jeux de l'année avec toute l'équipe des réguliers du rendez-vous jeu. Et la semaine d'après, vous aurez un épisode où on passe en revue avec JK les jeux de l'année 2024, ceux qu'on attend le plus. Ces deux formidables épisodes préenregistrés. Et comme ça fait quand même beaucoup de JK en ce moment, il était prévu pour aujourd'hui, mais on lui a dit non, écoute, ça suffit, beaucoup trop de JK à la place, on va avoir 1000K. Et on gagne au change, je pense, Milka Meluna, qui est avec nous pour la deuxième fois, je crois, dans le rendez-vous jeu. Salut Milka.
Ouais, tout à fait. Salut tout le monde. Salut Patrick.
Merci de te joindre à nous une nouvelle fois. Tu étais venu nous parler, si je ne me trompe pas, de Hogwarts Legacy.
Tout à fait, ouais.
C'était ça. Et je ne sais pas pourquoi j'associe... Ah mais c'est Luna, c'est pour ça.
Oui, Luna Lovegood, tout à fait.
Oui, tu m'avais dit ça. Donc Camille, merci d'être avec nous. Tu es chez MGG en temps normal. Et là, tu viens nous dire bonjour. C'est super.
Exactement.
On a... qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il faut que je rappelle ? Oui, j'espère que vous avez apprécié l'épisode sur League of Legends. Il y a quelques personnes qui sont venues rejoindre dans la communauté le channel League of Legends il y a quelques jours. Et donc, certains d'entre vous se le sont laissés convaincre. Je suis très content. Après la communauté Street Fighter et avant la communauté Tekken, on est en train de faire une communauté League of Legends. C'est cosy, on est quelques-uns, on s'amuse bien, on fait des games, c'est très très drôle. Donc, si vous n'avez pas écouté cet épisode League of Legends, même si vous ne jouez pas au jeu, je pense que ça pourrait vous intéresser. C'était la semaine dernière. Et ce week-end, il y a un petit édito pour les Patriotes dans lequel je fais un mini bilan de ce que j'ai fait cette année et comment je l'ai fait. Et d'ailleurs, à propos de Patriotes, je remercie le producteur de cet épisode, Lancelot Davizard. Un grand, grand merci à toi. Je remercie d'ailleurs du même coup tous les Patriotes de l'émission. Et c'est grâce à vous, évidemment, qu'on peut faire cette émission et qu'on a pu faire cette émission toute l'année et depuis de nombreuses années. On arrive l'année prochaine aux 10 ans de ma vie de podcasteur professionnel. C'était 2014. Incroyable. Et quand je vois le travail que nécessitent ces épisodes avec la documentation nécessaire la veille, j'ai l'impression que c'est de plus en plus, j'en parle un peu dans l'édito, je me dis que j'ai bien de la chance d'avoir un soutien indéfectible des Patriotes. Donc, si vous voulez vous lancer, patreon.com/rdvjeu. Et vous savez quoi ? On a beaucoup de sujets à traiter, des sujets compliqués. Donc, on va tout de suite lancer les trois infos de la semaine. Je regarde les... Attendez, il y a JK qui m'envoie des messages. Ok, je note. Très bien, il a noté, donc c'est bon. Il sera là l'année prochaine. Oui, parce que je vais vous faire rentrer dans la confidence. Hein. Il était censé être là. Et comme il y a eu tellement d'épisodes qu'on a enregistrés ce mois-ci, il a pensé que c'était fini pour l'année avec l'épisode sur les jeux de 2024. Et donc, il n'est pas là. Et donc, comme je le disais avec beaucoup d'humour, avant de lancer l'enregistrement, Milka va devoir jouer les deux rôles, JK et Milka.
Donc,
en gros, tu dois dire que... Je crois que c'est ça qui fait... Il faut que tu dises que j'ai raison à tout ce que je dis. Est-ce que tu penses que tu en es capable ?
Oui, j'en suis capable.
Très bien. Bon, on va voir si ça se réalise. J'ai comme un doute, comme un petit doute. Donc, premier sujet, c'est un truc qu'on n'attendait pas, évidemment. Et c'est un gros morceau, c'est le leak de le leak du studio Insomniac qui a eu lieu, qu'on a constaté il y a quelques jours de ça, et qui est un leak énorme, monumental. Ce qui s'est passé, c'est que Insomniac, donc le studio Sony qui est responsable des jeux Spider-Man, a été victime d'un hack, dont on n'a pas forcément tous les détails, mais qui a été fait pour soutirer de l'argent au studio par un groupe qui s'appelle Rissidia. Courageusement, Sony et Insomniac ont décidé de ne pas payer la rançon qui leur était demandé, et donc 1,6 téra de documents, plus d'un million de documents différents, ont été publiés par le groupe de hackers en question sur le net. Ils en ont vendu quelques-uns, mais l'essentiel a été publié. Et donc, c'est tout un tas de données qui se retrouvent dans la nature, qu'on commence à peine à explorer, mais il y a déjà des choses intéressantes à en tirer. Évidemment, on ne parle pas de tout. On parlait de l'éthique dans le Discord, et en particulier Kassim, dont je vais utiliser l'article sur Frandroid pour tirer les informations les plus importantes. J'en ai lu plusieurs, mais évidemment, comme toujours, Kassim fait un travail excellent. C'est son article qui sera dans la newsletter. Donc Kassim insistait sur la question de l'éthique, de quoi on parle, de quoi on ne parle pas. Il y a des choses qui sont évidemment hors limite, comme des informations sur les employés, des adresses, des infos personnelles, qui évidemment ne sont pas à traiter. Il y a aussi des choses comme des images ou des vidéos de développement qui sont peut-être un petit peu spoilery et puis surtout qui ne sont pas très intéressantes parce que ça évolue énormément au cours du temps. Ça non plus, on ne va pas trop en parler. Par contre, comme moi, je suis un petit peu aligné avec Kassim, comme il y a des infos intéressantes à traiter, on va en parler. Notamment des choses qui nous font plonger dans les secrets de cette industrie que les développeurs ne veulent pas qu'elles soient révélées. Alors, ça peut faire du mal aussi aux sociétés et ce n'est pas forcément évident qu'il faudrait en parler. Peut-être que c'est des choses qui sont un petit peu confidentielles pour une raison. Mais je pars du principe, je le dis souvent, je ne me considère pas vraiment comme un journaliste, mais j'essaye de suivre une certaine éthique, et je pars du principe qu'il y a très peu d'accès aux informations de ces sociétés dans cette industrie, et donc quand on a des informations, ça ouvre un petit peu le rideau, et on peut voir derrière, et on peut mieux comprendre, et donc il me semble important de les traiter, donc c'est pour ça qu'on choisit de les traiter ici. C'est à la limite, si les sociétés, elles ne veulent évidemment pas qu'on en parle, mais on ne peut pas faire seulement ce que veulent ces sociétés, sinon on n'est plus dans notre rôle, je pense. Bref, on va traiter de ces choses-là avec un petit peu de discernement tout de même. Et je vous détaille les choses que j'ai retenues dans ces leaks et dans ce qu'on en a tiré, essentiellement avec l'article de Frandroid que je vous mettrai en lien dans la newsletter. Donc, plusieurs informations. D'abord, la feuille de route du studio. On se rend compte qu'elle est établie bien à l'avance puisqu'elle court jusqu'en 2030 et même au-delà, avec d'abord un jeu multi-Spider-Man, un jeu multijoueur, co-op, jeu-service Spider-Man qui a visiblement été annulé, comme plusieurs chez Sony qui semblent revoir à la baisse ses ambitions sur le multijoueur et les jeux-service. Mais on voit que Insomniac est vraiment en train de devenir le studio Marvel pour Sony, avec un jeu Venom en 2025, qui sera sans doute un jeu un petit peu plus court à la Miles Morales, plus court que les gros jeux. En 2026, on a un gros morceau qui est Wolverine. Ça, on savait déjà qu'il allait arriver. 2028, Spider-Man 3. C'est pas très surprenant. On se doutait bien qu'ils allaient en faire. Mais surtout, 2030, alors ça pourra bouger, hein, mais 2030, un jeu X-Men qui fait rentrer la licence X-Men à la suite du personnage de Wolverine, donc dans cet univers, peut-être même en croisement avec Spider-Man, c'est possible. Et donc, ça étend la portée de la licence Marvel dans le giron de Insomniac et donc de Sony. Il y a aussi un jeu Ratchet & Clank qui est prévu pour 2029, je vous gâche pas que je ne suis pas certain que ça soit leur jeu le plus important. D'ailleurs, le jeu Ratchet & Clank, le dernier, n'a pas été hyper populaire, ou en tout cas, il n'est même pas vraiment rentré dans ses frais. Donc, voilà. Pour cette licence, justement, on apprend qu'il y a environ 600 millions de dollars de commitment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de commitment de la part de Sony ? C'est pas qu'ils payent Marvel 600 millions de dollars, mais ils vont investir sur la vie de cet accord 600 millions de dollars. Ce qui est une somme conséquente. Ils disent au moins 125-150 millions par jeu, quelque chose comme ça. Et du côté de Marvel, ils ne peuvent pas promouvoir un personnage X-Men, même dans un jeu qui serait un jeu plus large que simplement les X-Men. Ils ne peuvent pas promouvoir ce personnage sur un jeu qui est chez la concurrence. Donc vraiment, les X-Men maintenant, en gros, hein, appartiennent à Sony, comme c'est le cas de Spider-Man avec leur licence. Ça ne veut pas dire que le personnage Spider-Man ne peut pas apparaître ailleurs, mais comme c'était le cas, ils prennent d'ailleurs l'exemple de... comment il s'appelle ce jeu Marvel sur Switch ? Machin Alliance ? Je ne sais plus. Il y a Spider-Man dans ce jeu, mais Marvel ne peut pas dire « Regardez, vous pouvez jouer les X-Men dans ce jeu qui sort sur Switch ». X-Men, c'est vraiment le focus de PlayStation. Et au niveau de la contrepartie, les commissions, on a Marvel qui va toucher des sommes énormes sur les ventes des jeux, 26% sur les jeux physiques, 18% sur les jeux numériques, 30 à 50% sur les bundles, le prix de gros des bundles. C'est vraiment, vraiment énorme. À côté de ça, on a le budget de Spider-Man 2, ce qui est hyper intéressant. 300 millions de dollars pour Spider-Man 2, dont presque 250 directement chez Insomniac. Le reste, c'était chez d'autres studios, enfin, chez d'autres studios Sony. Et au plus fort de la production, c'était 264 employés qui travaillaient exclusivement sur Spider-Man. Après, il y avait du support. Enfin, évidemment, on ne compte pas ceux qui sont chez Insomniac et qui font, j'en sais rien, l'informatique, la bouffe, le ménage, la finance, etc., etc. Les HR, tout ça. Mais spécifiquement, qui ne travaillaient que sur Spider-Man, c'était 264. Au plus fort de la prod, bien sûr, ça varie. Et puis, on a deux infos sur la concurrence qui sont intéressantes. D'une part, le fait que Sony ne croit pas au Game Pass. Vraiment, il n'y croit pas du tout. Il pense que le Game Pass n'est pas tenable sur le long terme parce qu'ils ne veulent pas, ils ne pensent pas qu'on puisse avoir un système qui offre des jeux plein pot pour un abonnement mensuel, que financièrement, ça ne rentre pas dans le truc. Par contre, avec le rachat d'Activision Blizzard, ils craignent que ça ne dévalorise les jeux vendus plein pot, puisqu'ils vont offrir des jeux, enfin offrir entre guillemets, des jeux AAA dans le Game Pass. Ces infos datent un tout petit peu, parce que pour clôturer la liste, on a le truc, le gros lol de ce leak, c'est les prévisions de Sony sur Stadia. Ils imaginaient qu'en 2024, Stadia aurait 100 millions d'utilisateurs et poserait une vraie menace à Sony et à son écosystème. Alors, ce n'était pas les seuls, hein. Évidemment, quand Stadia s'est lancé, on était nombreux à se dire « Ouh là là, ça pourrait être un truc important ». Évidemment, Stadia a fermé en 2022, donc ils ne sont pas vraiment aux 100 millions. Mais c'est drôle de conclure avec ça, parce qu'on se rend bien compte que toutes ces prévisions... ça se réalise pas forcément, on va dire. Ça fait beaucoup d'infos, beaucoup de trucs. Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu as vues ou des infos qui t'ont intéressé particulièrement dans toute cette liste, Milka ?
Alors, je pense que tu as extrêmement bien résumé tout ça. Moi, il y a deux choses que je retiens. Deux choses que je retiens que je n'avais pas forcément eu le temps de consulter, c'est effectivement le budget pour Spider-Man, là. J'avoue que ça m'étonne pas tellement que ce soit autant. Je m'attendais à ce que ce soit plus, en fait, parce que si on parle vraiment du dernier Spider-Man là, pour moi c'est vraiment une super production, tu vois, c'est à la limite du film, et donc c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir ces données là. Alors on parlera peut-être après de l'éthique de tous ces leaks et tout ça. Voilà, c'est malheureux pour l'entreprise, effectivement, mais d'un point de vue curiosité, si tu veux, moi, ça me satisfait de savoir, d'avoir ce genre de données, effectivement, sur les budgets, le nombre de personnes qui ont travaillé dessus et tout ça. Et l'autre chose hyper intéressante que tu as dit, c'est sur le Game Pass. Ouais. C'est vrai que d'un point de vue utilisateur, tout le monde trouve ça génial parce que bah franchement, enfin le Game Pass, c'est une tuerie quoi depuis que ça existe. C'est pas si cher que ça pour ce que ça donne. Et effectivement, avoir aussi le point de vue de l'entreprise, que ce soit peut-être pas assez rentable pour eux et tout ça, c'est très intéressant. Donc à creuser aussi, ouais, ça m'intéresse.
C'est effectivement leur crainte, c'est que du coup, les gens ne veulent plus payer de jeux plein pot, quoi, ce qu'on peut comprendre. Oui. Bon, à ce stade, le Game Pass n'a pas vraiment livré ce qu'il promettait en gros jeux AAA à succès de Microsoft, mais c'est peut-être un autre débat. Et sur le budget, effectivement, on parle du développement. Hein. Ça n'inclut pas le marketing, qui, dans le cinéma en tout cas, et je crois dans le jeu vidéo également, est généralement à peu près autant que le développement. Donc, on peut imaginer qu'ils aient mis quelques centaines de millions aussi dans le marketing. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres comparables à ceux du cinéma, de tel film a coûté 500 millions, 600 millions, parfois plus même pour les gros. Ça inclut le marketing, qui est une énorme partie, quoi. Donc voilà, peut-être une petite note aussi pour parler des jeux PC, les jeux Sony sur PC. Il est intéressant de remarquer qu'ils ne se vendent pas à des millions. Par exemple, Spider-Man Remastered, qui est sorti il y a 6 mois au moment où ils font ce document, ne s'est écoulé que à 1,3 million d'unités. Alors, c'est pas rien, hein, mais il s'est écoulé que à 1,3 million d'unités. C'est beaucoup moins que Days Gone, qui était sorti plus tôt, mais c'est beaucoup moins que Days Gone, qui s'était écoulé à 1,7 million d'unités avec 1 an et demi. C'est marrant de voir à quel point Days Gone, en fait, n'est pas une mauvaise affaire au niveau financier pour Sony, malgré le désamour pour le jeu des joueurs. Et ils se rendent compte aussi que sur PC, les jeux se vendent très longtemps. Ils se vendent sur la durée plutôt que des gros boosts, peut-être comme c'est le cas sur console. Pas si surprenant, c'est des gens qui ne sont pas jetés dessus sur console. Il y aura sans doute d'autres choses qu'on va découvrir dans ces documents, mais on en reparlera peut-être en 2024. Mais voilà en gros pour les choses qu'on retient. Moi, je suis très curieux, en bon fan de Marvel, très très curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir avec X-Men. Et d'ailleurs, sur Wolverine, leurs ambitions sont vraiment importantes puisqu'ils disent « on veut ». On veut que Wolverine soit le jeu de l'année pour l'industrie, et ils veulent se concentrer sur l'histoire, moins s'éparpiller que dans Spider-Man 2 par exemple, donc vraiment se concentrer et faire un gros truc. Donc voilà, moi un jeu X-Men, rendez-vous compte. Tu es cliente aussi?
Très très fan de Marvel aussi, j'ai adoré le dernier Spider-Man là. Et j'attendais au Game Awards un trailer pour Wolverine. Il n'est jamais venu. Je vois effectivement que la date de sortie sera sûrement dans très longtemps, du coup.
Ouais, bah oui. 2026, au moment de ces documents. Donc peut-être que ça a bougé depuis, quoi. Bon.
Est-ce que tu as regardé les leaks ou pas, du coup?
Non, j'ai pas regardé. Le gameplay, j'ai pas regardé, non.
Moi non plus. Non, j'ose pas.
Non, on regarde pas. De toute façon, ça veut pas dire grand-chose à ce stade du développement, donc.
Voilà, parfait.
Pour la suite, parlons un petit peu de la crise dans l'industrie du jeu vidéo. C'est un sujet que j'ai évoqué à plusieurs reprises et qu'on évoque évidemment régulièrement dans cette émission, puisque depuis le début de l'année, on a une news qui est récurrente, qui est « Ah, tel studio licencie, ah, tel studio licencie, ah, tel studio licencie ». Tant et si bien qu'au fur et à mesure des mois, on a commencé à se dire que c'était une année vraiment importante pour le jeu vidéo de cette manière. Et puis évidemment, à mettre en contraste avec les succès et la qualité des jeux qui sont publiés et qui sont développés. C'est un petit peu difficile de ne pas se dire, mais que se passe-t-il dans cette industrie ? Est-ce que tout ça est justifié ? Et surtout, comme je le disais la semaine dernière, quelle ampleur est-ce que ça a vraiment ? Pour ce qui est des premières questions, je vais vous mettre dans la newsletter une vidéo hyper intéressante que nous a partagée Not Marius sur le Discord, qui est une vidéo qui essaye de... couvrir, enfin de couvrir, de d'analyser les raisons pour lesquelles les développeurs se font licencier. Et en gros, je vous résume un petit peu, il s'agit beaucoup plus de jouer avec les cycles de hype et les attentes des investisseurs pour que la boîte continue à se développer, plutôt que de réelles conditions de crise sur le marché. Et comme on l'avait dit et on l'avait précisé à plusieurs reprises, évidemment, l'industrie en elle-même n'est pas en crise. La raison pour laquelle on parle de crise, c'est qu'il y a beaucoup de licenciements. Ceci dit, une fois que ceci est bien clair, et j'ajoute évidemment que ce que je vais dire ensuite n'est pas du tout pour minimiser la réalité du problème des licenciements, et que, en particulier, alors, on pourrait parler de cynisme, mais c'est un fonctionnement qui est ce qu'il est, mais en particulier aux États-Unis, un licenciement, c'est particulièrement difficile, puisqu'on se retrouve généralement à la rue sans rien, avec pas d'assurance chômage, pas d'assurance maladie. Je le dis à chaque fois, hein, mais c'est bon de le répéter. C'est marrant nulle part, mais aux États-Unis, c'est particulièrement problématique, et le plus gros de l'industrie du jeu vidéo est aux États-Unis. Et on entend parfois les sociétés dire que, pas quand dans le jeu vidéo, mais dans toutes les industries, « Ah, nous travaillons avec les employés, nous leur donnons généreusement 3 mois d'assurance maladie en plus. » Et c'est, quand c'est ça, c'est bien, quoi, aux US. Donc bref, c'est pour ça qu'on parle de syndicalisation et à quel point c'est important dans l'industrie, aux États-Unis, encore plus qu'ailleurs. Bon, ceci dit, ce que je disais la semaine dernière aussi, c'est que j'aimerais bien avoir un petit peu de contexte pour comprendre à quel point cette industrie souffre et qu'est-ce que ça représente. Parce qu'on dit la crise depuis des semaines et des mois, on dit « Ah, c'est la crise, on sait la crise, c'est la crise ». Mais combien de gens se sont fait licencier ? Combien de gens il y a dans l'industrie ? Quel pourcentage ça représente par rapport aux différentes années ? Qu'est-ce que je voudrais savoir ? Et j'encourageais des journalistes, des vrais, pas comme moi, à faire une enquête là-dessus. Il se trouve, alors peut-être que ça viendra, mais il se trouve que j'ai commencé à chercher quelques chiffres ici ou là, et surtout à vous demander votre ressenti par rapport à ce qu'on répétait depuis des mois de la crise. Votre ressenti, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette crise, par rapport au bruit qu'on en fait ? Et j'ai trouvé, moi, des chiffres derrière. Les sondages que j'ai faits, qui ne sont pas du tout scientifiques, hein, c'est sur Twitter et Threads et tout ça, d'ailleurs, beaucoup de gens votent encore sur Twitter et un petit peu sur Threads, assez peu sur Mastodon, mais j'ai mis les sondages partout. La première question que j'ai posée, c'est « L'industrie du jeu vidéo est en crise, il y a eu de nombreux licenciements dans l'industrie, de nombreux observateurs s'accordent à dire qu'elle est en crise, pour le licenciement, hein, on est bien d'accord qu'elle va très bien au niveau financier. Et quel est votre ressenti ? Est-ce que ça représente 2 à 5% de l'industrie, 5 à 10% de l'industrie, cette crise avec tous ces licenciements? Est-ce que 5 à 10% des développeurs ont été licenciés, 10 à 15% ou plus de 15%? Vous avez été en moyenne, je dirais, plus de 2/3, un petit peu plus de 2/3, entre 2/3 et 1/4, si on fait la moyenne de tous les réseaux, à dire plus de 5%. Je vais revenir à ça juste après. J'ai posé l'autre question qui était... combien de gens est-ce que ça représente, cette crise ? 5 à 10 000, 10 à 50 000, 50 à 100 000 ou plus de 100 000 dans l'industrie du jeu vidéo. Là encore, je dirais deux tiers, trois quarts à dire plus de 10 000. D'après les chiffres que j'ai trouvés, le nombre de développeurs qui a été licencié s'élève à environ 9 000 personnes. C'est des chiffres qui nous viennent de Video Game Liaison, qui est la source que semblent utiliser la plupart des gens qui parlent de ce sujet. Videogamelaysoff.com, où il a suivi par tous les articles le nombre de développeurs qui ont été licenciés aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il y a toute une liste. Et il adresse l'idée que, mais attendez, c'est pas beaucoup ça, vous sous-estimez pas. Et il dit non, alors j'ai pris en compte ceci et cela, machin. Pour le jeu vidéo spécifiquement, si on parle de la tech, c'est beaucoup plus, mais le jeu vidéo spécifiquement, on est à peu près 9000 personnes. Dans l'industrie du jeu vidéo, là encore, j'ai fait des petites recherches. vraiment c'est à la louche, j'ai pas fait une enquête, sans même parler de qui est journaliste ou pas, les chiffres que j'ai trouvés, c'est à peu près, on va dire, 600 000 développeurs dans le monde. 600 000 développeurs dans le monde, 9 000 licenciés, ça représente 1,5% des développeurs du monde qui ont été licenciés cette année. 1,5%. Vos impressions, dans le sondage, je disais 2 à 5%, il y a, on va dire, 25 à 30% d'entre vous qui ont eu le bon chiffre, entre guillemets, puisqu'on est en fait encore en dessous dans la réalité. Les trois quarts des gens surestiment largement le pourcentage. Ça ne veut pas dire que les licenciements ne sont pas graves. Mais vous savez que moi, j'aime la justesse. Je me transforme parfois, je prends les ailes de la justesse sur moi et j'essaye d'avoir des chiffres précis. On est à 1,5% d'après les chiffres que j'ai eus. Hein, ça se trouve, je me plante complètement. 1,5% de personnes affectées. Personne ne semble réaliser ce que c'est vraiment, ce que représente cette crise. Pareil pour le nombre de personnes. On a dit c'est 9 000 environ, selon les estimations. Et les trois quarts d'entre vous pensent que c'est plus de 10 000. Certains vont jusqu'à 50 000, 100 000. C'est des sondages faits sur les réseaux sociaux. Mais c'est les chiffres que j'ai eus. Donc pour moi, ça ne change rien au fait, mais c'est important de comprendre ce qu'on dit quand on parle de crise. De manière intéressante, il y a eu, juste au moment où j'allais finaliser mes chiffres, un article donc de Engadget qui retrace l'année de l'industrie et qui parle notamment des différentes tendances et des licenciements. Et une chose qui m'intéresse, c'est que 9000 licenciements, comme ça dans le vide, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est beaucoup par rapport aux années précédentes, machin ? Moi, ce que j'ai trouvé pour comparer, je me suis dit, ok, essayons de regarder en France combien il y a de licenciements chaque année, combien de licenciements tout court, hein, combien de licenciements en moyenne. Il y a environ 1 million de licenciements en France pour, je parle des 10 dernières années, on est à peu près 1 million de licenciements par an pour 20 à 25 millions d'employés sous CDI ou CDD. Donc, ça représente à peu près les 4-5%. Donc, la moyenne des licenciements, pas que dans le jeu vidéo, hein, mais dans l'ensemble du travail chez les travailleurs en France, on est à 4-5% de gens qui se font virer par an. Évidemment, la plupart retrouvent un travail, hein, parce qu'il y a aussi des embauches, mais 4-5%. Donc, dans ce contexte, les 1,5% ne me paraissent pas énormes. Alors, c'est beaucoup, bien sûr, c'est 9 000 personnes, ça ne me paraît pas énorme. Ceci dit, le contexte nécessite aussi qu'on sache de quoi on parle dans l'industrie du jeu vidéo, et pour ça, il faudrait avoir des chiffres sur les autres années. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Engadget en a donné pour 2022 à partir d'un site qui s'appelle Layoffs Tracker, qui est un petit peu difficile à utiliser et qui est souvent down, donc je n'ai pas réussi à extraire les infos parce qu'il y a des infos de plein de sociétés. Je n'ai pas réussi à extraire les infos pour les autres années. Mais en 2022, il y a eu 1000 licenciements. Seulement 1000. Alors que l'année d'après, cette année, c'est 9000. Donc on passe de 1000 à 9000. 900% d'augmentation, évidemment. C'est une crise. Alors, est-ce que c'était une année particulièrement facile en 2022 et que les autres années, il y en avait plus ? Ou je ne sais pas, j'aimerais bien avoir un peu plus de contexte. Mais voilà pour la situation autour de ça. Et j'insiste, hein, parce que je me fais un petit peu... c'est même pas une question d'avocat du diable. J'aime souvent et je ne vais pas jouer le jingle parce que ce n'est pas le cas. Là, je ne me fais pas l'avocat du diable. J'essaye de donner du contexte. D'après ce que je comprends, 1,5% de licenciements et 9000 personnes sur cette année. Voilà pour le contexte que je voulais donner. Est-ce que du coup, c'est pas grave ? 1000 cas, tout va bien, l'industrie se porte à merveille, tout le monde est content, bien sûr.
Alors, je pense pas du coup, effectivement, comment on peut expliquer ça, quoi ? Je vois effectivement que tu as fait beaucoup de recherches et j'allais te demander pour les années précédentes. Effectivement, passer de 1000 à 9000, moi, je trouve ça très très grave. Comment on peut expliquer ça ? Est-ce que c'est parce que il y a eu, je sais pas, beaucoup de problèmes en interne ? Est-ce que les industries n'ont plus besoin de leurs employés maintenant que tous les gros jeux sont sortis ? Je sais pas, tu vois. Donc,
alors,
je comprends.
Une des choses pour 2022, c'est peut-être le Covid aussi. Tu sais, on était sur la fin du Covid, les gens ont beaucoup embauché ou gardé leurs employés. Peut-être que les années précédentes, c'était plus je sais pas, 2000, 3000. On est quand même loin de 9000, j'imagine qu'on en était loin.
Ouais.
Et puis pourquoi ? Bah, c'est vraiment une question de satisfaire les investisseurs. Vraiment, hein. Enfin, vraiment, je sais pas. C'est ce que j'en comprends, parce que c'est le cas dans la tech. Et c'est aussi ce que semble analyser cette vidéo, c'est Moon, que nous a partagé notre Marius. C'est un peu l'analyse qu'il en fait aussi. C'est pour utiliser le cycle de la hype, il explique tout ça, et pour plaire aux investisseurs, pour plaire, pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que quand tu joues pas le jeu, tu peux avoir des problèmes très sérieux financiers, parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Je vous laisserai aller voir ça. Et donc, c'est pour passer aux investisseurs le message que nous, on est responsables, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a la guerre, c'est la crise. Là, pour le coup, une vraie crise, l'inflation, tout ça. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Entre parenthèses, les jeux Sony voudraient passer à bientôt, dans quelques années, à 100 euros. Donc, voilà. Mais oui, ça s'explique pas par une crise du fait que les gens n'achètent plus de jeux. Ça s'explique parce qu'il faut continuer à lever de l'argent pour continuer à produire des jeux. Je pense qu'ils pourraient, pour être très honnête, ces grosses sociétés auraient largement pu se permettre de garder les 9000 personnes. Largement.
Ben ouais.
Bon. Donc voilà pour ce petit contexte.
J'avais oublié cette histoire.
Oui, pardon ?
Pardon, non, j'avais oublié cette histoire de Sony qui veut passer les jeux à 100 euros. Ça explique pourquoi le Game Pass ne les intéresse pas forcément.
Exactement, exactement. On est à dans quelques années. Hein. Peut-être, je ne sais plus comment il disait, 2028, 2030. Comme ça.
Ouais, quand même.
Ah, mais à un moment, tu vois, un truc qui reste au même prix, ça. Bon, faudra passer par 90 euros quand même avant. Mais un truc qui reste au même prix, bah, ça veut dire que ça coûte moins cher. Regardez votre salaire. Si votre salaire n'augmente pas, eh bah, ça veut dire que vous pouvez acheter moins de choses parce que l'inflation est constante. Donc, ça marche de la même manière. On parle de l'IA dans la chatroom, c'est pas lié à l'IA, hein, les licenciements, vraiment.
Ouais.
On n'y est pas encore. Ça arrivera peut-être, mais on n'y est pas encore. J'avoue que, comme je disais des sondages, ah oui, les gens, regardez, ils se plantent bien en disant que ça représente 50 000 personnes ou 10% ou je sais pas quoi. Avant de regarder, de trouver les chiffres, moi j'aurais complètement dit, je sais pas, ça représente 10% de l'industrie ou au moins 100 000 personnes, tu vois, j'aurais été complètement, ouais. J'avais aucune idée que c'était, entre guillemets, aussi peu, entre guillemets. Dernier sujet dont je voulais parler, encore une histoire un petit peu incroyable, avec le procès de la Californie contre Activision Blizzard. Je vais faire un petit retour dans le temps pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. En 2021, à l'été 2021, on apprend que l'État de Californie, c'est différentes agences, des agences qui ont changé de nom en cours de route, donc on va dire l'État de Californie, lance un procès contre Activision Blizzard avec des chefs d'accusation extrêmement graves qui a provoqué non seulement une réaction médiatique très forte, mais aussi une chute de la valeur de la société et qui, par rebond, a provoqué le rachat par Xbox. Les accusations très graves portaient essentiellement sur le traitement des employés et des employés EES, donc des femmes dans l'entreprise, avec de très nombreux cas de harcèlement et de toxicité qui sont avérés. Qui sont pas en question. Je voudrais mettre l'accent sur un élément de ce procès qui était le plus important. Enfin, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que moi j'ai travaillé pour Activision Blizzard, enfin pour Blizzard spécifiquement en Europe, en France, de 2009 à 2014. Donc j'avais quitté la société depuis longtemps au moment du scandale. Mais pour les auditeurs qui écoutent l'émission depuis donc ce moment au moins, vous saurez que ça m'a particulièrement affecté, que j'étais incroyablement remonté, que j'en ai parlé à de très très nombreuses reprises et que ça m'a vraiment touché, quoi. Je me suis senti, je sais pas, trahi, coupable, parce que j'ai travaillé là-bas et j'avais pas ressenti cette ambiance. Bon, c'était en Europe et pas aux États-Unis, mais tout de même, j'ai parlé à des gens, des amis ES qui travaillaient là-bas, qui m'ont dit ouais, oui, il y avait des trucs vraiment pas cool, il y avait des, enfin plus que pas cool, c'était une ambiance terrible, etc., etc. En tout cas, il y a eu des cas de harcèlement qui ont été avérés. Le, à l'époque, DFEH, Department of Fair Employment and Housing, déroule les faits d'accusation en disant « Nous avons mené une enquête de 2 ans et nous concluons que dans l'entreprise Activision Blizzard, et en particulier Blizzard, Activision c'est venu aussi après, les femmes sont sujettes à un harcèlement sexuel constant. Elles sont malmenées, on commente des choses, on leur fait des avances, on les plotte. Il y a dans la structure dirigeante, et c'est ça qui est le gros problème, la structure dirigeante et les ressources humaines savent ce qui se passe et ne font rien. En gros, on faillit à leur devoir de prendre des mesures raisonnables pour empêcher ce genre de comportement illégaux, et ont, au lieu de ça, pris des mesures punitives contre les femmes qui se sont plaintes. Et ils ont développé et entretenu une culture sexiste dans l'entreprise. Les deux types d'accusations sont un peu différents. Un peu. Ils sont liés, évidemment, mais un peu différents. Le fait qu'il y ait des incidents de toxicité, de sexisme et de harcèlement, je pense, n'est pas remis en cause. Et c'est très grave. Le fait, l'accusation qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est l'accusation que la structure dirigeante est au courant, crée et encourage une culture toxique et de harcèlement. Et pour moi, en tout cas, s'il y avait eu des faits de harcèlement, c'est même pas isolé parce qu'il y en a eu plusieurs dizaines, donc c'est nombreux, ça aurait déjà été dramatique. Et ça l'est. Mais le fait qu'ils accusent, après une enquête de 2 ans, ils ont mis 2 ans d'enquête, qu'ils accusent la société d'entretenir cette ambiance, c'est genre le truc qui fait overdrive et qui fait que le problème a été tellement important, a pris de telles proportions. Parce que ça a eu des conséquences énormes qui sont allées au-delà de ce qu'on a vu dans d'autres sociétés qui ont eu des problèmes relativement comparables, comme au hasard, Riot Games, Ubisoft, Detroit Become Human. Bref, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs des sociétés comme ça, mais avec Blizzard, c'était vraiment le summum, d'autant plus que la culture d'entreprise que j'ai connue était, enfin, affichait une volonté inclusive, égale, et donc, évidemment qu'il y a des... Quantic Dream, merci beaucoup la chatroom. Évidemment qu'il y a eu des incidents, c'est indéniable, mais cette culture d'entreprise est vraiment ce qui a été remis en question et ce qui a été pointé du doigt. Donc, j'ajoute un point également important, il y avait un autre élément qui est la différence de rémunération entre les hommes et les femmes, qui a aussi été un point qui a été mis en avant. Bref, ça c'était juillet 2021, j'étais dans tous mes états, j'ai fait des émissions en français, en anglais pour en parler, enfin j'étais vraiment, je me sentais pas bien. Bref, septembre 2021, Activision fait un deal pour gérer une partie de l'accusation avec une autre organisation sur la question de la différence de rémunération. Je vais y revenir tout à l'heure. Quelques mois plus tard, Riot fait un deal à peu près équivalent. Janvier 2022, ça provoque le rachat, enfin l'annonce du rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Et on arrive, le rachat se fait, après on en a parlé pendant des mois, et on arrive enfin, désolé pour cette longue introduction, à l'article publié il y a une semaine, dans le New York Times, qui dit qu'ils ont vu envoyer par... Enfin, ils ont eu connaissance d'un contrat, d'un accord passé entre l'État de Californie et Activision Blizzard pour annuler le procès. pour annuler le procès, avec l'inclusion d'un fonds de 54 millions de dollars pour pallier à certaines accusations. Et je vais rentrer un tout petit peu dans le détail parce que c'est important. Les accusations en question sont des accusations, les accusations pour lesquelles ils mettent de côté les 54 millions de dollars, c'est des accusations de différence de paye, pas des accusations de harcèlement. Des accusations de différence de paye pour lesquelles les experts de l'État de Californie témoignent qu'ils n'en ont pas trouvé à poste égal. C'est important. Il n'y a pas de différence de paye à poste égal. Évidemment, ce que ça ne dit pas, c'est est-ce que les femmes n'ont pas été promues parce qu'elles sont des femmes, et donc évidemment, ça crée une différence de paye au niveau global de la société. Ce qu'ils ont trouvé, effectivement, et qui est assez facile à trouver, il y a une différence de paye si on prend tous les postes. Les femmes sont à des postes moins importants. Est-ce que c'est parce qu'elles sont moins promues ou pas? Injustement, c'est très possible, et c'est pour ça que l'argent a été mis de côté pour compenser les femmes qui seraient, dont il serait prouvé qu'elles sont dans cette situation. Mais à poste égal, il n'y a pas de différence. Important aussi. Mais donc, cette somme, selon le deal qui est énoncé, cette somme est mise de côté pour ça. Pour ce qui est du rôle de la structure dirigeante dans la culture d'entreprise, il y a un langage qui est extrêmement fort. Extrêmement fort. Ils disent, dans le deal, qui a été signé par la Californie et Activision Blizzard, ils disent « Aucune instance juridique, ni aucune enquête indépendante n'a trouvé de quoi substantiate, ça veut dire de quoi soutenir l'idée d'un harcèlement large dans la société, widespread, et systémique. Aucune enquête, ni l'une ni l'autre, ça fait 2 ans et demi hein, qu'ils ont lancé la vraie enquête, après 2 ans d'enquête en interne. Ils n'ont trouvé aucune preuve de malfaisance, wrongdoing, aucune preuve de culpabilité, on va dire, du board d'Activision, de ses exécutives, ou de Robert Kotick. Aucune preuve de faute du board ou de Robert Kotick. J'imagine que Kotick a insisté pour mettre cette clause dans le truc. Mais, alors je vais y revenir. Ils n'ont trouvé aucun pattern de pratiques de harcèlement sexuel récurrent ou large. Aucun. Et je vous vois venir. Il y a des gens qui vont dire « Oh, mais attends, aux États-Unis, c'est toujours comme ça. Tu fais un deal pour passer sous le tapis des trucs, alors que en fait, ils sont coupables, on le sait bien. Mais c'est pour récupérer les 54 millions qu'ils ont réussi à récupérer. C'est les plea agreements. Ça se passe comme ça aux États-Unis. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coupables. » J'en ai vu des deals de ce genre. Ce n'est pas dit comme ça. Les deals, tu arranges peut-être un petit peu ce que tu as, tu joues tes cartes, tu fais... Mais quand tu dis 4 fois dans le document, de manière différente, aucune culpabilité de la structure dirigeante de différentes manières, que tu mets le nom de Robert Kotick dans le truc spécifiquement, moi, je ne crois pas juste... Je pense qu'il n'est pas... Ok, parlons, essayons d'être un petit peu objectifs. Je pense qu'il n'est pas raisonnable de voir ce texte et de juste continuer à se dire... Ah oh mais si, mais en fait, ils sont coupables, ils sont, et on n'a pas, on ne saura jamais, la justice est incapable, ça se passe toujours comme ça, les puissances en sortent, machin. Non. On peut le penser, mais raisonnablement, on doit au moins se poser la question, se mettre le doute, quoi. Est-ce qu'il y avait peut-être un acteur de l'État qui voulait taper un grand coup? Et donc, qui a exagéré, après 2 ans d'enquête, il s'est dit « Non, mais je suis sûr, ou on va taper un grand coup sur une grosse boîte parce que c'est l'administration, etc. » Et ensuite, ils se sont rendus compte, parce qu'ils avaient, ce qui est indéniable, les, je ne sais plus, 20, 30, 40 cas de personnes qui se sont fait harceler, parfois de manière très grave, avec un Kotick qui s'est déjà fait condamner pour avoir laissé des menaces de mort sur le répondeur de son assistante, enfin menace de mort, il dit « Ah, oh, I'm gonna kill you », je sais pas quoi, peut-être que c'était pas aussi grave, j'en sais rien, mais il y avait des choses qui étaient claires et établies, et ils se sont dit, bon, on va y aller, on a un gros coup à jouer, on y va. Après 2 ans d'enquête, ils ont dit ça. 2 ans d'enquête de plus où tout le monde a collaboré. Personne n'a jamais dit dans ce procès, on en aurait entendu parler, ils font de la rétention de documents, ils font... Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est tellement dur à prouver que c'est systémique. Quand tu dis que c'est aussi large, aussi gros, et que tu as enquêté pendant 2 ans, et que tu enquêtes encore pendant 2 ans, et que ta conclusion dans ton deal, que tu n'es pas capable d'avoir autre chose que aucune enquête indépendante ou de l'État n'a réussi à trouver c'est même pas de preuves, d'éléments qui tendraient à prouver la nature systémique de cette culture toxique et de harcèlement, après autant d'enquêtes, si ça ne vous met pas le doute, vraiment, je pense qu'il faut... si ça ne vous met même pas... ça vous fait même pas vous poser une question quelque part, c'est qu'il y a un problème. Il y a une question de justesse. Les mots veulent dire quelque chose. Oui, on ne pourra jamais savoir, si vous voulez, on peut se réfugier dans... On ne pourra jamais savoir pour tout. On pourrait dire pour tout, on ne pourra jamais savoir. Ah oui, mais on nous cache la vérité, machin. Non, là, quand on le dit comme ça, c'est que ça veut dire quelque chose, au moins qu'ils n'ont pas des cartes assez fortes pour pousser quoi que ce soit. Et donc, moi, ça me perturbe. Et j'ai dit ça pendant quelques jours, là, quand j'ai eu connaissance de ce truc-là. Et j'ai dit, mais enfin, c'est quand même pas croyable qu'ils disent ça comme ça. Est-ce que c'est pas possible qu'ils disent vraiment ce qu'ils disent là et qu'il y ait eu un machin systémique? Et on dit dans la chatroom, c'est la différence entre systémique et existant. Tout à fait. Existant, ça veut dire qu'il y a eu des cas de harcèlement. Et ça, personne n'en doute. Personne ne le remet en question. Mais s'il y avait eu que des cas de harcèlement et que ce n'était pas un truc systémique, que la société est pourrie jusque dans son cœur, eh ben on n'aurait pas eu toutes les conséquences qu'on a eues jusqu'à maintenant. La raison pour laquelle ça a fait un tel scandale, la raison pour laquelle l'action s'est cassée la gueule, la raison pour laquelle Microsoft a pu racheter Activision, c'est que c'était systémique. Pas juste qu'il y avait des incidents, aussi nombreux soient-ils. Et donc, j'ai dit ça en lisant le texte. Moi, je suis tombé de ma chaise, vraiment. J'en ai parlé à ma femme, on l'a regardé ensemble. Elle me dit, elle qui est juriste, elle me dit, oui, enfin là, il y a au minimum, ils ont vraiment rien pour soutenir. Il ne dit pas qu'ils ne sont pas coupables. Dans le texte, ce n'est pas dit, ils ne sont pas coupables. Ils ont dit, on n'a pas trouvé de preuves. Et moi, ce que je dis, c'est, et bon, enfin, je pense qu'on sera d'accord. Bref. Je passe ces quelques jours à me dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que, hein, on a une mise à jour du texte, enfin une mise à jour de l'article de GameIndustry.biz, qui est décidément un excellent papier pour suivre l'industrie du jeu vidéo. Le texte aurait été envoyé par Activision Blizzard, et c'est le document signé par les deux parties, comme je le disais au départ, Activision Blizzard et l'État de Californie, enfin le CRD, qui est le nom actuel de l'entité en question. Signé. Le CRD, quelques jours plus tard, envoie un message, un courrier, un mail à GameIndustry.biz en disant « Ce texte n'est pas complet. C'est le deal, le settlement incomplet. Il n'est pas final. Il serait imprudent ou misleading. » Ça veut dire « ça serait trompeur de parler de ce texte en l'état. » Et là, je me dis, mais de quoi on parle? Le texte est signé par les deux parties. Ils n'ont pas remis en question le fait qu'il était signé. Mais il serait trompeur de parler des conclusions de ce texte en l'état. Donc, je ne sais pas, moi, ce que je comprends, du coup, c'est trompeur, mais ce n'est pas que je l'ai mal compris en lisant le texte en l'état. Le texte en l'état dit bien ce qu'il dit. Est-ce que c'était le texte final et qu'en voyant les réactions, ils se sont dit « Oula, non, 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 notre image est hyper écornée parce que du coup, on a l'air de rigolo. On a fait ce procès à grand bruit il y a 2 ans et maintenant, tout à coup, personne n'est coupable. Non, revoyant le texte, il y a le gouverneur qui a vu les articles et qui a appelé le mec d'en bas pour dire ça. Est-ce que c'est Activision Blizzard qui... Alors, pourquoi ils avaient un texte signé par le CRD? J'en sais rien, je pense pas qu'ils ont forgé la signature du CRD, parce que quand même, ils avaient un texte signé ils l'ont envoyé, ce que je peux comprendre. Le texte n'est pas approuvé par le juge, donc il n'est pas encore entré en vigueur. Mais ils ont un texte signé, donc on s'est dit c'était bon. C'est pour ça que le New York Times en a parlé, que Game Industry Biz en a parlé. Qu'est-ce qui se... Je serais très, très, très curieux de voir ce qui sera le texte final. Hyper curieux. Parce que là, en l'état, il y a un truc qui va pas. Et c'est ça que je pointais du doigt au moment où j'ai lu ce texte. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oh non, mais en fait, ça veut rien dire, c'est ceci, c'est cela. » Non, ce texte, tel qu'il est, il veut dire quelque chose. Et c'est pour ça que le CRD s'est empressé d'envoyer un message en disant « Non, en fait, c'est pas le texte final. » Parce qu'il veut dire quelque chose, ce texte, tel qu'il est. Donc, qu'est-ce qu'il en sera à terme ? J'en sais rien. Hier ou avant-hier, j'ai vu l'update. Donc, tout à coup, je me dis « Ah bon, alors peut-être que finalement, c'est pas la même chose. » Mais en l'état, et on faudra étudier de très près ce qu'il dit en, une fois mis à jour, d'autant plus qu'il a été envoyé, publié par le New York Times, donc envoyé, et j'imaginais avec l'accord du CRD, de la Californie, je ne peux pas imaginer que ça a été fait sans que personne soit au courant là-bas, ils l'ont quand même signé le truc, et c'est un texte qui est en état, enfin, je veux dire, je ne sais pas ce qu'ils vont changer, mais tu laisses pas passer ces termes-là si t'es en complet désaccord avec ce que disent ces termes-là. Tu les mets même pas dans le brouillon. Ou alors, c'est un brouillon qu'a écrit Blizzard et qu'ils n'ont pas vu. Enfin, j'en sais rien. Ils l'ont signé sans le voir, je sais pas. Mais ils l'ont publié le samedi. Vous savez, le vendredi, c'est le Take Out the Trash Day. Take Out the Trash Day dans The West Wing, c'est le jour où tu mets les news dont tu veux que personne ne parle. Je peux vous dire qu'un samedi avant Noël... pour une enquête qui a duré 2 ans et demi, un samedi avant Noël, c'est vraiment que tu veux que personne n'en parle. Activision Blizzard, je peux comprendre, il veut mettre ça derrière eux, et Kotick pourra dire « Mais regardez, dans l'accord, ça dit que je ne suis pas coupable. » Ok, très bien, t'as pas laissé de message avec menace de mort à ta... Enfin, si, on sait, il ne dit pas le contraire. Mais si t'es le CRD et que tu veux enterrer le truc parce que t'as fait tellement de bruit au moment de l'ouverture du procès et que tu veux entrer le truc parce que t'as pas trouvé ce que tu pensais trouver, tu fais pas autrement. Donc je sais plus quoi penser. Je sais plus. Je sais pas. Mais là, je vous ai livré tout ce que je comprends. Et donc, deux choses. Les cas de harcèlement sont 100% réels. Enfin, il n'y a pas de question là-dessus. C'était pas la question, en fait. Les cas de harcèlement, ils sont réels et c'est déjà suffisamment grave pour Blizzard. J'aurais été très remonté sans qu'il n'y ait en plus ce truc qu'il a fait passer au niveau x4. Et la question de la différence de paye est évidemment une question importante aussi. Et le fait que ça soit pas qu'il n'y ait pas de différence à poste égal, c'est notable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème avec des promotions qui n'ont pas été attribuées à des femmes, etc. Donc, tout ça, posé sans forcément de jugement, mais en tout cas, moi, ça m'a frappé de lire le résultat de ce procès. Je suis désolé, j'ai parlé pendant 45 minutes. Il y avait beaucoup de choses à dire. Ma femme s'en va. Elle va partir à Helsinki. Tiens, mon ange. À demain. J'ai parlé 45 minutes, au moins, peut-être même plus. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire, toi ?
Je suis essoufflée. J'arrêtais pas de réagir. J'avais le micro coupé, bien sûr, mais non, c'est très très grave ce qui se passe, évidemment, depuis le début, bien sûr. Parfaitement bien résumé, encore une fois, je sais, c'est ton travail. Mais non, enfin, ça fait bizarre de se replonger là-dedans, effectivement, parce que, évidemment, sur MGG, on a pu traiter 2-3 articles hein, à ce sujet, comme tout le monde. Mais là, avoir un condensé, de se rappeler tout ce qui s'est passé, effectivement, les harcèlements qui sont avérés, comme tu le dis, cette notion de paye inégale, ok, il n'y a pas de preuve parce que c'est au même poste, etc., mais effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Et là, ce document, effectivement, alors moi je ne l'avais pas lu là, tu viens de le lire, c'est très choquant. Et effectivement, je ne sais plus quoi penser non plus, parce que tu ne peux pas... Alors moi, je ne suis pas juriste, malheureusement, mais tu ne peux pas, effectivement, aller à l'encontre d'un tel papier en te disant « Ben non, c'est faux, ils sont forcément coupables, etc. » On n'a pas les tenants et les aboutissants. On peut seulement juger sur ce qu'on a pu avoir comme preuve et comme témoignage. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait, maintenant ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que... Ouais, moi, je me sens un peu impuissante. Évidemment, j'ai pas mon rôle dans tout ça, mais c'est très compliqué à gérer. Là, le départ de Kotick, finalement, je sais pas trop si ça a vraiment un rapport avec tout ça, tu vois. Genre, est-ce que ça a été prémédité ? J'en sais rien, tu vois. Moi, je suis pas théorie du complot et tout ça, parce que faut pas s'enfoncer dans ces trucs-là, mais... Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette affaire ? Comment, en 2 ans d'enquête, effectivement, tu peux dire qu'il n'y a pas de... C'est pas qu'il n'y a pas de preuves, comme tu dis, mais c'est un peu ce qu'ils disent quand même, quoi.
Ah bah si, c'est exactement ce qu'ils, c'est ce qu'ils disent. Ils n'ont pas trouvé d'éléments qui permettent de soutenir les accusations de harcèlement sexuel. Et c'est pas juste que c'est pas systémique, c'est que ce n'est pas « widespread ». Ils disent exactement, ils utilisent le mot « widespread », donc c'est pas « large ». Ils n'ont pas trouvé de cas de harcèlement sexuel large. Alors, quelques dizaines, c'est déjà beaucoup trop, évidemment.
Oui.
Mais ces gens, c'est pas, ça ne fait pas partie du le cœur de l'entreprise, semble. Alors, sur la question du départ de Kotick, c'était évidemment prévu. Je veux dire, quand tu es une société comme tu prévois, et avec Xbox, ils ont dit, alors à quel moment on dit ça, à quel moment on dit ça. Là, ils ont, entre guillemets, lavé le nom de Kotick. Et puis, ils annonçaient confirmé, parce que oui, on l'a pas dit, mais le départ de Kotick est confirmé. Le 29 décembre, il ne fera plus partie de la société. Donc, c'est confirmé. Je pense que la plupart des gens se disent « Ok, merci, au revoir ». Ce que je me dis aussi. Mais en même temps, imaginons un instant un scénario de fiction qui n'est pas tant un scénario... Là, je fais un poil l'avocat du diable, mais juste un peu. Kotick est un connard. On sait que c'est un type qui est... Enfin, un connard, c'est un jugement de valeur. C'est un type qui est sans scrupules. Voilà, il n'a pas beaucoup de scrupules. C'est un entrepreneur américain à succès. Lui, il fait tourner sa boîte. Et quand on a besoin de faire ce qu'on doit faire, eh ben, c'est le business. Et business is business, et voilà. J'ai pas d'état d'âme. Bon, en plus de ça, il est très riche. Et bah, comme souvent, les gens très riches, bah, peut-être que parfois, ils ont des sautes d'humeur qui se retrouvent... Enfin, l'accusation de « Oh, je vais la tuer !» Bon, bah oui, clairement, c'est un truc qu'il a fait. Il y a eu un accord là-dessus pour qu'il n'y ait pas de procès. Ah, c'est un type qui a, au minimum, eu des sautes d'humeur. Maintenant, enfin, des sautes d'humeur. Il y a eu des sérieux problèmes dans son comportement. Mais je veux dire, il y a des problèmes avec les comportements de plein de gens. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des connards. Mais et il y a eu, dans sa société, des gens, quelques niveaux en dessous, qui ont eu des comportements inacceptables, toxicité, harcèlement, tout ça. C'est clair. Quand ils en ont entendu parler, ils ont fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'ils n'ont pas fait assez pour empêcher les trucs partout, mais si on prend l'autre côté du truc, c'est difficile de chasser tous les connards de toutes les boîtes. Je veux dire, ça devient un problème de société au sens notre société, qui est sexiste et qui a cette acceptabilité du harcèlement notamment des femmes, mais pas que. Et ça, c'est un problème qui est plus large que juste Blizzard. À côté de ça, donc tu as cette société, qui, l'État, qui a 10, 20, 30, 40 cas de harcèlement. Ils disent « Ok, là, on va taper fort. » Et on accuse la société Kotick d'être responsable d'une culture d'entreprise toxique, machin. Kotick qui se dit « Mais non, mais enfin, je suis peut-être un connard riche, mais... je ne suis pas non plus pour harceler les femmes au boulot, quoi. Non, je fais ce qu'il faut quand on m'en parle. Je fais ce que je peux dans une société où ce n'est pas évident, où c'est difficile d'empêcher tout le monde. Enfin, on n'est pas la Stasi, on ne va pas écouter les gens mettre des micros dans les... J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc il dit, bon, bah, on va se défendre. On va livrer tous les documents qu'on peut. Hein, nos avocats vont gérer ça. Et au bout du compte, j'imagine qu'on aura raison parce qu'on n'est pas en train, nous, de... d'encourager cette culture toxique. Je suis un homme, un businessman, je fais du travail, ici on travaille, on est sans foi ni loi, enfin sans, pas sans foi ni loi, mais on est sans état d'âme peut-être, mais on bosse sérieusement, autant qu'on peut. Et donc, connard, oui, peut-être, riche certainement, est-ce qu'il est responsable de la création d'une culture d'entreprise toxique ? Peut-être pas. Je sais pas. S'il n'était pas responsable et si la structure dirigeante avait fait, entre guillemets, ce qu'il fallait quand ils ont été... Et clairement, ils n'ont pas tout bien fait. Hein. Il y a une question de degré, parce que s'ils avaient tout bien fait, il y aurait eu moins de problèmes. C'est clair. Mais si, peut-être qu'ils ont fait passable leur boulot, correctement passable, pour s'assurer que les choses ne se passent pas plus mal qu'elles ne pourraient. Enfin, en tout cas, qu'il n'y a pas de culture générale d'entreprise pourrie. Eh bien, ça ne se passerait pas autrement. Ce que je veux dire, c'est que ça se passerait peut-être comme ça s'ils sont innocents de ces accusations. Peut-être que Kotick est innocent, j'en sais rien. Enfin, de ces accusations-là. Et puis, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais enfin, attends, ça s'est passé, il était chef, au final, c'est lui qui est responsable. » Oui, mais est-ce que tu peux, dans une boîte de, je ne sais plus combien, 5 000, 6 000, 10 000 employés, surveiller chaque personne ? L'enquête, en tout cas, plusieurs enquêtes, y compris de l'État de Californie et indépendantes, trouvent que, selon ce texte, hein, ça se trouve, ils vont réécrire le texte, ça va être complètement autre chose. Bref, pardon, je suis reparti dans des... parce que je ne sais pas quoi penser non plus. Bref.
Est-ce que, je ne me rappelle plus du coup, mais est-ce que des mesures ont vraiment été prises du coup quand il y a eu les harcèlements ?
Bah oui, enfin, tu sais, c'est, là encore, on n'est pas dans la boîte. C'est pour ça qu'il faut se reposer sur des enquêtes indépendantes et des enquêtes de l'État, des enquêtes adversariales, tu vois. C'est pas des gens qui ont intérêt à ne rien trouver. Les avocats de la Californie, ils n'ont pas intérêt à rien trouver. Donc, a priori, oui.
Je suis d'accord, tu vois, que tu peux pas accuser quelqu'un, aussi connard soit-il, de créer quelque chose comme ça. Effectivement, on peut pas reprocher à Kotick d'avoir créé cette ambiance, si je puis dire, dans l'entreprise. Mais en tant que chef de la société, effectivement, lui reprocher de ne pas avoir agi, de n'avoir rien fait pour solutionner tout ça, là, effectivement, je pense que c'est... réglo, tu vois, de l'accuser de ça. Mais voilà, Oui, évidemment qu'il a voulu se défendre là-dessus.
Bien sûr. Mais c'est ça qui est la vraie interrogation. C'est que le texte dit, encore une fois, has not substantiated any allegations about systemic or widespread sexual harassment. En gros, ce qu'il dit, il n'y a pas de harcèlement sexuel systémique et large dans la société. Il n'y en a pas. Enfin, non, pardon, ouais, pardon. C'est pas ce qu'ils disent. Ils n'ont pas trouvé d'éléments qui permettent de confirmer les accusations de harcèlement dans la boîte. Ils n'ont pas trouvé d'éléments qui les confirment, après une enquête de 2 ans.
Ouais.
je te laisse, j'ai vraiment beaucoup parlé, je te laisse conclure sur le sujet s'il y a une conclusion à faire.
Conclusion, non, malheureusement. Par contre, oui, j'ai hâte de voir effectivement ce papier revisité. J'espère qu'il le sera, du coup. Mais non, c'est très complexe comme sujet. Franchement, je suis un peu perdue comme toi. Parce qu'au départ, moi, pareil, j'étais très énervée avec cette histoire, comme beaucoup, je pense. Après, voilà, est-ce que c'est possible d'accuser une société tout entière, finalement, sur ce genre de choses ? Trop, trop dur.
Est-ce qu'il est possible que Kotick ne soit pas le méchant de James Bond qu'on a peint au cours de ces deux... Enfin, il était déjà particulièrement mal aimé, hein. Est-ce qu'on va...
je pense qu'il a ses torts, attention. Il est coupable de beaucoup de choses, mais ouais, j'ai hâte de voir la tournure quand même de l'affaire. Je suis contente qu'il soit parti quand même. Et voilà.
Attendons de voir le nouveau texte. On en parlera. Vous pouvez me faire confiance pour le suivre.
c'est éprouvant comme sujet.
Bon, on passe au jeu auquel on a joué plutôt. Si on parlait de jeux vidéo, tiens.
Ah !
En voilà une bonne idée. Avant ça, patreon.com/rdvjeux. Pour soutenir l'émission, si vous appréciez ce que je fais et la justesse que j'essaye d'intimer à mes sujets, vous pouvez soutenir sur patreon.com/rdvjeux.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on va parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Alors, il semblerait que Epic t'ait attrapé.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oh là là. Alors, je pense que tu en as déjà parlé dans un podcast précédent. Mais pour moi, ce sont des génies, tout simplement. Des génies du mal, je ne sais pas, mais en tout cas, des génies du marketing, du jeu vidéo.
Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose, finalement ?
Des génies du mal, oui.
Et des génies du marketing.
Non, c'est franchement, je ne peux qu'applaudir, en fait, ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai déjà joué à Fortnite quand c'est sorti. Je fais partie des rares personnes qui avaient acheté le jeu pour pouvoir faire le mode solo.
Ah ouais,
le mode zombie, là, je ne sais plus comment il s'appelle, sauver le monde.
Et La sortie du petit mode Battle Royale qu'ils ont fait après.
D'accord.
Tout à fait, oui. Et donc, voilà, gros succès, 2016 ou 2017, je ne sais plus. Oui. Énorme succès, on ne peut pas leur enlever ça, évidemment. Et là, ils reviennent en force. Ils se disent, mais mon Dieu, Fortnite, ça marche super bien. Finalement, on va en faire une plateforme et on va sortir d'autres jeux. Et là, ils nous balancent Lego Fortnite, un jeu de musique à la guitare héros et un jeu de course. Mais comment tu veux ne pas revenir sur le jeu ? C'est gratuit. Enfin, je sais pas. Donc voilà, j'ai réinstallé le jeu, 90 gigas, je sais plus, ça a mis longtemps.
Oh, t'es en ADSL ?
Non, fibre, mais le soyons d'accord, le launcher d'Epic Games, mon Dieu, faut faire quelque chose.
D'accord.
Et alors c'est que moi qui rame sur Epic, je ne sais pas, mais ça me bride la connexion.
Je comprends.
Tout ça pour dire que je passe beaucoup de temps sur Fortnite en ce moment, donc d'abord parce que j'ai voulu tester le Lego Fortnite, qui me fait évidemment penser à Minecraft. J'ai adoré tester aussi le jeu de rythme, qui est très très bien fait. Avec des difficultés selon les instruments que tu choisis et tout ça. Le jeu de course aussi, qui est franchement sympa. Et bah du coup, ça m'a donné envie de rejouer au Battle Royale. Donc ils ont réussi leur truc, j'ai même acheté le Battle Pass.
Ah voilà, c'était ça la question importante. Oui, donc le génie du marketing a vraiment réussi son coup.
Ça a fonctionné, c'est un truc de fou.
Tim Sweeney se frotte le vent dans son bureau. Mais du coup, beaucoup de gens jouent. On avait vu, on parlait la semaine dernière de chiffres complètement hallucinants, genre 2 millions de joueurs en simultané sur Lego Fortnite. C'est vraiment du Minecraft ? C'est comment ce jeu alors ?
C'est vraiment du Minecraft, alors c'est léger, c'est Minecraft à ses débuts en fait, parce qu'il manque beaucoup de choses, mine de rien. Mais ce qui est fort, c'est qu'ils veulent en faire un jeu permanent, donc ça veut dire qu'il va y avoir des mises à jour dès janvier là, 2024, avec des ajouts, etc. C'est tout con, mais il manque par exemple le système de pêche, qui est quand même important dans les jeux de survie comme ça. Mais... Non, je suis désolée, mais ils sont trop forts, en fait. Graphiquement, c'est beau. T'as tous tes skins de Fortnite de base qui sont transcrits
légoifiés,
en version
on dit,
Lego.
C'est
quoi. Voilà, légoifié, ouais. Enfin, c'est un très, très bon jeu de survie auquel il manque quand même beaucoup de choses, je pense. Mais bah, ça va arriver, donc je vois pas pourquoi ce truc-là serait éphémère dans le cœur des joueurs, déjà. Mm.
Donc c'est vraiment le principe, c'est tu te retrouves sur une plage et puis tu vas miner des ressources, couper du bois, machin, et puis construire des trucs. Et il y a des zombies qui arrivent la nuit, comme dans Fortnite, comme dans Minecraft. ou...
Ouais, c'est ça, exactement. Donc t'arrives pas forcément sur la plage, mais à un endroit où t'as rien. Et premières actions, ça va être de couper du bois à main nue, récolter quelques pierres, te faire un feu de camp, et tu vas construire ton village. Au fur et à mesure, quoi, que tu peux améliorer. Alors ça, pour le coup, dans Minecraft, il n'y a pas. Je trouve que c'est un bon ajout de Fortnite, un peu comme, je crois que c'est dans Dragon Quest Builders qu'il y avait ça aussi, où tu peux te faire aider par des villageois pour ramener des ressources, améliorer ton village, du coup, et débloquer de plus en plus de trucs. T'as le mode, forcément, construction, décoration, où tu vas vouloir... construire un château si t'as envie. Après c'est quand même beaucoup plus limité que Minecraft, attention, enfin comme je dis, c'en est qu'au début, donc faudra voir après, mais la formule fonctionne et c'est coop, c'est gratuit. C'est évidemment que les gens veulent venir, quoi.
C'est vrai que c'est Minecraft, il y a pas de Minecraft gratuit en fait, j'y pense. Peut-être que Roblox, plus ou moins, qui a un certain succès aussi. Mais oui, là, c'est complètement gratuit. C'est pas surprenant que tout le monde se lance dedans, quoi.
Ouais, tout à fait. Pensé, et moi, je vais te dire...
Bon, en même temps, tout le monde a déjà Minecraft, mais... Oui, pardon.
Non, pardon, ouais, moi, il y a un jeu que j'attends énormément qui a été annoncé en 2018, qui s'appelle Hytale, qui est développé par les créateurs Hypixel Studio, aujourd'hui en partenariat avec Riot Games. Donc ça va être un jeu de survie de fou furieux, je pense. Malheureusement, le développement a été retardé et avoir ce Lego Fortnite en attendant Hytale, tu vois, ça fait un peu un entre-deux qui me plaît beaucoup. Donc, je suis contente.
Tu parles d'un truc fait avec Riot, c'est un jeu Riot Forge, c'est un truc basé dans l'univers de League of Legends ou...
Alors, il faudrait que je re-regarde, mais je crois que...
Comment ça s'appelle, Hytale?
Hytale, Hytale. Et en gros, c'est des développeurs hyper connus sur Minecraft qui ont fait tout un serveur avec des mini-jeux très très connus, en fait, Hypixel Studio. Et ils se sont fait racheter par Riot.
Ah d'accord, ok.
Et du coup, ils ont maintenant le budget, si je puis dire, pour améliorer ce jeu qui, de base, c'était censé être un petit jeu, tu vois.
C'est marrant, je ne vois pas de mention de Riot. Ah si, d'accord. Acquired in April 2020, tout à fait.
Voilà, en 2020.
D'accord, ouais. Donc c'est un studio Riot. Très bien. Ok.
Donc à surveiller.
À surveiller, effectivement. Du coup, je vais regarder de quoi il s'agit, Hytale. C'est vraiment du Minecraft. Hein. Ça ressemble à du Minecraft.
Et le trailer, je crois qu'il est déjà à plus de 60 millions de...
60 millions.
Ouais, c'est Minecraft 2.0, ce jeu.
Ouais, d'accord. Intéressant, très bien. Il y a d'autres choses auxquelles tu as joué, notamment Baldur's Gate 3, dont on reparlera peut-être la semaine prochaine dans l'épisode GOTY.
Mais Baldur's, j'ai commencé l'aventure il y a un mois, donc un peu après tout le monde, parce que justement tout le monde ne m'en disait que du bien. Et je n'ai jamais fait de jeu de rôle papier. Donc voilà. M'initier au JDR, si tu veux, au format jeu vidéo, pour moi, c'est exceptionnel. Et je suis désolée, mais il mérite absolument tous les Game Awards qu'il a reçus, parce que c'est vraiment un truc de fou, ce jeu. Il n'y a rien qui ne va pas, en fait. Non, mais vraiment, je m'en rends compte avec le recul, tu vois, pas parce que... Et je dis pas ça parce que je suis fan, justement, de JDR, je m'en fous des JDR et je m'en fous de Baldur's. Mais objectivement, franchement, ils ont fait un travail monumental, quoi. C'est respect.
Je pense
que je m'amuse bien dessus.
Je pense qu'il y a peu de jeux qu'on peut montrer à quelqu'un qui ne soient pas des jeux flashy, genre graphiquement impressionnants, qu'on peut montrer à quelqu'un, le mettre devant, lui dire « Voilà, maintenant, tu as 3 heures, tu joues. » Et n'importe qui passe 3 heures dessus va être estomaqué par le jeu. Alors qu'il n'est pas graphiquement si... Il est cool, hein, mais pas super impressionnant. Et c'est rare.
Mais la gestion des choix, ouais, peu importe ce que tu fais, il y aura une conséquence différente. C'est impressionnant.
On est d'accord.
Tout a été pensé, en fait. Ouais.
Peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine dans notre épisode GOTY, qui sait ? On verra. Et du coup, tu es dans la zone zéro, si j'ai bien compris ?
Oui. Et encore, là, le DLC de Pokémon, du coup. Donc, c'est le deuxième volume du DLC qui comprend deux volumes, et voire même un troisième partie qui sortira le 11 janvier. Ça a été annoncé hier. Je dirais pas que c'est décevant, en fait, les DLC de Pokémon.
Je crois que les gens ne le portent pas dans leur cœur, généralement, hein, celui-là. Mais...
Ouais, après... Après, si les gens attendent effectivement une évolution graphique sur les DLC, il faut passer votre tour. Parce que c'est le même jeu, enfin, c'est le jeu de base qui continue dans deux nouvelles régions. Mais en fait, c'est très très court, quoi. Pour 30€, franchement... Il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a du contenu pour les gens qui aiment capturer, par exemple. Là, ils ont rajouté tous les starters qui sont jamais sortis dans la licence. Hop, ils ont tout remis. Mmh. Tous les légendaires, ils ont tout remis. Mais le scénario reste bâclé, à mon sens. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un épilogue qui va sortir, justement, en janvier. On verra. Peut-être que ça nous apportera des réponses. Mais en tout cas, voilà, le DLC, je joue pour le boulot. Je m'ennuie pas non plus, attention, mais bon, c'est pas...
Mais tu joues pour le boulot.
Voilà.
Je pense que c'est un bon moyen de dire les choses.
Et pourtant, je suis fan de Pokémon, attention.
Bon, écoute.
Voilà, les jeux du moment, je crois que c'est tout. Je joue à quoi d'autre?
Ouais.
Un peu à Disney Dreamlight Valley.
Je suis curieux de savoir ce que t'en penses alors.
Oh, écoute, j'ai 400 heures dessus, donc j'aime bien.
Ah oui, d'accord. Ok.
Disney Dreamlight Valley, c'est... mitigé du coup sur l'aspect économique du jeu, parce que c'était censé être un jeu en accès anticipé payant avec un pack fondateur qui était censé passer en free-to-play. Donc à télécharger gratuitement par tout le monde. Malheureusement, ils ont gardé la monétisation qu'on peut retrouver dans n'importe quel free-to-play, mais ils ont gardé le jeu payant. Mm-hmm. C'est un peu étrange, parce que tu peux quand même acheter du coup des Battle Pass, tu peux quand même acheter tes petits skins à 10€ et tout ça. Donc il y a un truc un peu bizarre quand même autour de la monétisation, mais le jeu reste vraiment très très bien. Tous ceux qui veulent une sorte de Animal Crossing, jeu de ferme mélangé, tu vois, dans l'univers de Disney en plus. Donc, gros jeu de farm.
Très bien. Bah écoute, du coup, il est effectivement plus free-to-play, mais il reste sympathique. Peut-être qu'ils se sont dit, mais en fait, c'est bien ce qu'on est en train de faire.
Ah non, mais bien sûr. Super, là, ils ont même sorti un DLC, ils sortent du contenu payant maintenant.
Ah oui ?
Oui, oui.
Ah d'accord, ça j'étais
pas au
courant.
C'est pour ça que j'y rejoue là, oui.
Ah oui, d'accord, ok. Bon, très bien, bah, écoute. Au moins, tu l'aimes bien, c'est l'essentiel.
Oui.
Moi, j'ai joué à... Tekken 8, est-ce que ça te parle, Tekken 8 ?
Oui, c'est quoi, une démo ?
Alors, figure-toi que j'ai joué à la démo du jeu, effectivement, qui est disponible sur PlayStation et qui devrait arriver là sur les autres plateformes. Et franchement, ce que je ressentais au cours des bêtas précédentes et avec les avis des différents créateurs de contenu qui avaient testé le jeu, il est... Pour refaire le parcours de la renaissance 2023 des jeux de combat. Les jeux de combat avec Tekken 7 et Street Fighter 5 et d'autres avaient une certaine popularité, mais en 2023-2024, les développeurs semblaient vouloir dire « Non, mais on va vraiment ramener les jeux de combat sur le devant de la scène ». Street Fighter 6 apportait des choses vraiment intéressantes avec une prise en main plus facile et des modes solo convaincants et intéressants et une recréation de l'ambiance de l'arcade qui rappellerait des souvenirs aux anciens. Et je me suis dit, mais après tout ça, alors il y en avait qui fonctionnaient plus ou moins, le mode solo est peut-être moyen, mais après tout ça, je me suis dit, Tekken, il semble être en train de faire un Tekken 7 avec des graphismes à peine plus beaux et ça se voit pas tellement parce que déjà, ils étaient beaux dans Tekken 7. Je suis pas sûr que ça convainque grand monde qui est pas déjà convaincu. Et ben en fait, ils ont réussi, j'ai l'impression, hein, sur la démo et sur ce que j'ai vu, ils ont réussi à tous les points de vue à faire, j'ai l'impression, mieux que Street Fighter. Alors, peut-être pas au niveau du gameplay, le gameplay reste le cœur du truc et il est très différent, donc on aime ou on n'aime pas, c'est différent. Mais tout ce qu'il y a autour, l'emballage, en fait, est excellent à tous les points de vue. Le mode histoire, franchement, il est du niveau, vers peut-être même au-dessus des modes histoire de Mortal Kombat, qui sont généralement particulièrement appréciés. C'est vraiment de l'animé shonen, c'est n'importe quoi, c'est super drôle. Mais c'est comme un film d'action, je le disais déjà la semaine dernière. Et la surprise, c'est le mode Arcade Quest. Vraiment, le mode Arcade Quest, c'est une recréation des salles d'arcade de l'époque, mais de manière... Comment dire ? Tu joues un personnage, un petit avatar, qui se balade avec ses potes, qui découvre Tekken 8 et dont les potes sont super fans de Tekken 8 ou de Tekken et qui expliquent à leurs potes le principe de Tekken. Et donc, c'est un moyen de t'apprendre, toi, à jouer au jeu à travers ces petites scènes où tu te balades dans un environnement 3D avec les gens qui veulent t'apprendre à jouer au jeu. Mais en plus de ça, tu as une sorte d'histoire, c'est un autre mode histoire où tu vas évidemment vouloir devenir un super bon joueur de Tekken et aller faire d'abord dans ta petite salle d'arcade pourrie et faire des petits tournois et puis aller jusqu'au super championnat de Tekken où tu vas essayer de battre le champion du monde ou ce genre de choses, on imagine. Et franchement, ça fonctionne, mais de fou, de ouf même, diraient certains. Ça fonctionne de ouf. C'est la salle d'arcade, t'arrives au début dans une belle salle d'arcade qui est hyper moderne avec du beau tapis, des néons, de l'éclairage, tout ça, pour la sortie de Tekken. Et après, tu retournes dans ta petite salle d'arcade locale. Et ta petite salle d'arcade locale, elle est toute pourrie. Et toute pourrie. Mais alors, vous savez, j'ai passé presque 4 ans au Japon. J'ai passé 4 ans au Japon. C'est exactement le look et le feeling des petites salles d'arcade locales de quartier du Japon qu'il y avait, qui aujourd'hui n'existent plus vraiment, mais avec les câbles qui passent partout à travers, sur les murs, le papier peint un peu décrépit, les bornes tout autour, et la grosse salle dans laquelle tu vas au début, c'est les salles un peu plus classes dans lesquelles les gens se retrouvent, où il y a les tournois, enfin, super... C'est encore mieux que le Battle Hub de Street Fighter pour te donner cette impression de salle d'arcade. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donnera à terme. Et la fonction Battle Hub, genre quand tu te balades vraiment dans la salle d'arcade et où tu vas pouvoir aller, il y a des endroits pour acheter des trucs, des endroits pour retrouver des gens, des endroits pour faire des combats, etc. etc. Donc, ce mode Arcade Quest a l'air de vraiment fonctionner. Alors, en plus, il y a des personnages dans ce mode Arcade Quest. À un moment, vers la fin de la démo, il y a celui qui a gagné le championnat que tu as vu au début de ton mode Arcade Quest. C'est le type qui joue que Kazuya. Et évidemment, il ressemble un petit peu à Kazuya. Il est genre, ah, je vois que dans cette salle d'arcade, vous ne prenez pas le jeu au sérieux. Vous ne faites que... jouer pour vous amuser. Vous n'êtes vraiment que des miens, moins que rien. Et il y a les autres qui sont là, comment ? Mais non, pas du tout. On peut jouer à Tekken comme on veut. Si c'est pour s'amuser, c'est super. Et lui dit, vous n'êtes vraiment pas sérieux. Moi, je ne me bats que contre des gens qui veulent gagner. Et il s'en va, genre fier et lointain. Et là, tu te dis, ah, lui, ça va être notre ennemi du premier arc du truc de salle d'arcade. Et c'est évidemment avec énormément de recul, c'est super marrant. Ça marche de ouf. Donc le 26 janvier, je serai devant ma console en train de jouer à Tekken. Je peux vous le garantir et j'espère que nous recréerons une communauté de fans de jeux à cette occasion.
Ça m'a donné envie.
Écoute, Milka, parlons sérieusement. À chaque fois que je parle de jeux de combat dans cette émission et qu'il y a des gens qui ne sont pas déjà fans de jeux de combat, ils me disent... Ouais. « Oh, ça a l'air sympa, ça m'a donné envie, mais non, en fait, je ne vais pas jouer. » Et les gens ne jouent jamais.
Bah, on verra.
Eh, mais voilà, je suis déçu.
Si j'ai un code gratuit.
Peut-être. Bon.
Allez hop.
Écoute. On verra à ce moment si je réussis à te convaincre de t'y mettre et tu nous donneras tes impressions de novice de Tekken qui commence au 8 pour donner une impression aux auditeurs.
J'ai joué à Tekken sur PlayStation 1.
Ah, je Tekken 3 avec Gon.
Sûrement. C'était... Il y avait une superbe cinématique avec une moto et tout, c'était trop bien.
Ah, c'était le 3. C'était le 3.
Ok, bon, ben voilà, j'ai joué à celui-là.
Il est temps de revenir à la maison. It's time to come home, Milka Meluna. Bon, on en reparlera dans quelques semaines. L'autre truc auquel j'ai joué, c'est évidemment, encore une fois, League of Legends.
Oh.
Ouais. Il faut que je fasse un jingle League of Patrick. les auditeurs réguliers le savent. J'ai joué pour la première fois à League of Legends il y a 2 mois. 1 mois. Après les Worlds. Et je suis à fond maintenant. À fond. J'ai commencé à jouer en ranked. J'ai atteint un palier vraiment où je me fais défoncer. Je commençais un petit peu à jouer correctement. Enfin, correctement. Non. Mais je commençais à ne plus perdre à chaque fois. Et donc, je me suis dit, oh, bah, ça va, je suis prêt, je vais aller en draft et puis en ranked. En fait, les joueurs jouent sérieusement un petit peu plus. En fait, c'est pas ça, c'est qu'ils jouent pas sérieusement en normal, du tout. Donc, oui, effectivement, je me démerde. Mais dans ces autres modes, je me fais exploser. Et en ranked, visiblement, alors je sais pas pourquoi exactement, mais il m'a mis en gold. Et c'est pas genre, oh, en fait, fausse modestie, je suis gold. Non, c'est pas ça. C'est peut-être parce que j'ai joué avec les potes du Discord une ou deux fois, ou peut-être parce qu'il met les gens en gold pour éviter les smurfs qui vont se mettre à bas niveau et exploser tout le monde pour s'amuser. Il met les gens en gold, comme ça, ceux qui sont vraiment bons, ils montent, malgré eux, et ceux qui sont pas bons, bah, ils redescendent. J'ai l'impression que je suis dans ce cas. Je suis en gold, je me fais massacré. Je suis déjà redescendu en silver, Dieu merci, je veux descendre jusqu'en bronze pour pouvoir faire quelque chose. Parce que au niveau de l'exécution, les gens d'en face sont tellement meilleurs que moi quand je fais une erreur, et j'en fais beaucoup parce que je suis mauvais, et ils me delete en 2 secondes. C'est genre, je fais une erreur, paf, voilà, au revoir Patrick. Donc, c'est pas hyper drôle, mais je n'abandonne pas, messieurs, dames. Je suis inspiré. Je suis inspiré par les chansons, les thèmes des Worlds de League of Legends. Vous savez, quand ils disent We are the legends, we are the warriors that built this town, and you try your hardest and you get up and you get back up when you're down. Et moi, je continue. Enfin, je continue. Il va falloir que j'arrête parce qu'il y a les vacances là pendant 10 jours. Mais on m'a rappelé un truc que j'avais oublié. J'aurais pas mon PC avec moi pendant 10 jours. Sais-tu ce que j'aurais avec moi ?
Le Steam Deck.
Alors oui, mais jouer à League sur Steam Deck, c'est pas évident. Ça sera la Rogue Ally dans mon cas. Non, autre chose. Mon téléphone et mon iPad sur lesquels il y a Wild Rift.
Oh !
Donc, peut-être que je pourrais continuer. On verra. Mais voilà, pour League of Patrick, c'est le déboîtage en règle de Gold. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été mis en gold. Et j'espère que je vais bien vite me retrouver à mon vrai niveau, parce que ça suffit. Je perds
game. C'est dur, League of Legends. Ah,
c'est dur, mais c'est ça qui est surprenant, c'est fun.
Ouais.
Bon, voilà pour la partie sur les jeux auxquels on a joué en ce moment. Et on va conclure, il est temps, avec le reste de l'actualité. Petite news décevante, enfin de triste, la fin de Xbox Squad. On en a parlé ici 2 ou 3 fois de Xbox Squad. C'est une communauté qui est née en 2018, je crois. Ils le disent dans le texte d'au revoir, en 2018. C'est vraiment un site et une communauté qui célébrait la joie d'être un fan de Xbox. Et il y a généralement ce genre de communauté, c'est quand c'est centré autour d'une marque. Bon, bah, ça devient vite un petit peu excluant, un petit peu toxique. Eux, pas du tout, ils étaient super sympas, notamment Fab, qui est l'une des personnes qui est à la tête du site. Et ils avaient fait 3 années d'affilée, je crois, le Summer Fest, Xbox Summer Fest, où ils faisaient, ils retransmettaient la diffusion de la conférence d'E3 de Microsoft dans une salle avec plein de fans français, parisiens, qui venaient spécialement pour. Et j'y étais, moi, en 2023. C'était super sympa. Il y avait le petit message de Phil Spencer aussi, qui envoyait un petit bonjour aux fans français. C'était super sympa et malheureusement, cette commune va s'arrêter. Voilà. Alors, ils ne rentrent pas dans les détails de pourquoi, mais je voulais le mentionner parce qu'ils étaient vraiment sympas et c'est rare d'avoir, comme je disais, genre, nous, on est fans de Xbox, mais vraiment, on est cool et on aime tout le monde et on aime plus qu'on exclut et plus qu'on dénigre le reste. Donc, je leur envoie un petit coup de chapeau. Combien de PlayStation 5 ont été vendus depuis le lancement de la console, sachant qu'ils s'étaient vendus sur la même période 50 millions de PlayStation 4. À ton avis, Milka, combien ?
Oh, ça doit être démesuré. Sur l'année, là ?
Depuis le lancement de la console, sur la même durée, en fait, en à peu près 3 ans, il s'était vendu 50 millions de PlayStation 4. À ton avis, il s'est vendu combien de millions de PlayStation 5 ?
300 millions.
Alors tu vois, c'est avec ce genre de feeling qu'on arrive à des chiffres, des réponses au sondage qui sont 75% fausses. Tu
la
vois
crise du JV.
50 millions, c'est le même nombre en fait. La console la plus vendue de l'histoire,
ah ouais,
c'est la PlayStation 2 avec 150 millions. C'est intéressant parce que 50 millions, c'est le même chiffre que la PlayStation 4, mais n'oubliez pas qu'il y a eu pendant une bonne partie de la vie de la PlayStation 5 des ruptures de stock absolument monumentales. Pendant la période Covid, une bonne partie de la période Covid, il était quasiment impossible de se trouver une PlayStation 5. Alors on peut se dire, oui, mais du coup, tout le monde les a achetées après, c'est possible, mais il y a quand même des gens qui ne l'ont pas acheté et qui n'ont pas acheté après non plus. Peut-être pas beaucoup. Sur la même période, sur cette année, il semblerait que la PlayStation se soit vendue 3 fois plus que la Xbox, et ça confirmerait les infos qu'on a entendues ici et là. Bon.
Et la Switch, tiens.
Alors la Switch, elle est en fin-ish de vie, mais elle se vend quand même, je crois qu'il s'en est vendu plus de 10 millions cette année. Je ne vais pas dire de bêtises,
ouais,
il y avait le chiffre quelque part, oui, je ne me souviens plus. Mais oui, oui, elle se vend encore très bien. Il est temps de passer à la suite, mais elle se porte pas trop mal.
Oui, 2024, on y croit ?
On y croit.
On y croit.
Les premières previews de Prince of Persia The Lost Crown sont en train de tomber et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui n'aime pas. Tout le monde aime ces premières impressions sur le jeu. Donc, moi, je suis assez impatient aussi. Tu l'attends, The Lost Crown ?
Ouais, je suis très intriguée par la forme du jeu. Moi, j'attendais beaucoup le remake de... Je ne me rappelle plus du titre, avec le sable.
The Sands of Time, ouais.
Voilà. Parce que je l'avais fait celui de base, du coup, j'avais adoré. Et malheureusement, du coup, on n'aura pas ce remake. Donc, pourquoi pas ce petit jeu-là ? Oh. Ouais, je suis en train de regarder les trailers, c'est très, très beau. Ça n'a pas l'air mauvais, ouais.
Ça n'a pas l'air mauvais, on est d'accord. Bah, il sort en janvier aussi, hein. Donc, janvier
finalement.
Va être...
Moi, je pensais qu'il n'y avait rien en janvier.
Il faut écouter l'épisode sur les jeux de 2024 qui arrive tout début 2024. Tu sauras exactement les très nombreux jeux qui arrivent en janvier. Et je sais ce qui va se passer. Je sais, Milka. Maintenant, tu me dis, oh, Tekken, ça a l'air sympa. T'as l'air de... Quand va arriver la sortie de Tekken ? Je sais bien. Tu vas dire, ah, mais non, mais la semaine dernière, il y a Prince of Persia qui est sorti. Je suis dessus à fond. Je vais le platiner. Mais... désolé, j'ai pas le temps. Je le vois venir.
Il y a The Last of Us,
le 2 remaster, c'est ça ? Je sais pas comment il remake, écrit truc.
Remaster, ouais. Ça a l'air sympa.
Quelques jours après avoir dit que Twitch a dit, vous vous souvenez la semaine dernière, en fait, le contenu à caractère sexuel, c'est trop compliqué de le bannir, de ne pas l'avoir, donc on va l'autoriser. Allez, avec le bon tag, mais on va l'autoriser. 2 jours plus tard, ah non, mais en fait, ça peut provoquer des problèmes. Donc en fait, on va le rebannir. Mais vraiment, genre, 3 jours plus tard. Alors, il y a des arguments pour dire on va l'autoriser parce que les questions de dépiction artistique, de la nudité, machin, tout ça, les femmes qui allaitent, il y avait plein de cas, de edge cases, de cas limites. On se disait, alors ça, est-ce que oui ou non ? Et, mais il y a plein de raisons aussi pour dire bah non, en fait, parce que ça peut provoquer plein de problèmes, mais bah, je ne sais pas, qu'est-ce que... qu'est-ce que vous faites, quoi ?
Ouais, là... Ça rétro-pédale.
Ça met... Carrément. Non, mais surtout, tu vois, c'est le truc, genre, une semaine, on dit ça, et trois jours plus tard, ah non, mais il y a des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Total War, le développeur, je ne sais pas si vous avez vu ce mot d'excuse à propos de Total War Warhammer 3, spécifiquement, mais Creative Assembly a fait le plus beau mot d'excuse que j'ai vu pour un développeur. C'est non seulement nos jeux sont sortis cassés, non seulement ils étaient trop chers, non seulement on est désolé, mais en plus on va vous rembourser si vous avez payé le jeu au prix auquel il était avant qu'on ne le baisse, parce que oui, on va aussi baisser le jeu. Enfin, c'est genre mea culpa, bien fait. Et ouais. Visiblement, il y avait de gros problèmes dans cette communauté, mais je mentionne le beau mea culpa de Creative Assembly parce que tout le monde a l'air d'accord pour dire oui, c'est comme ça que ça se fait. Valve a envoyé des bans de Dota 2 avec des objets en jeu. C'est quand même très fort. T'as vu cette histoire ou pas ?
Non, c'est quoi ?
Alors en fait, ils ont envoyé des objets genre cadeaux en jeu à des gens qui avaient fait du smurfing ou tu vois, qui avaient été problématiques dans le jeu. Ils ont envoyé un cadeau en jeu à ouvrir genre pour Noël et leur cadeau, ils l'ouvrent. C'est genre un morceau de charbon pourri. Et ils l'ouvrent et ça leur dit « Vous avez été toxique, vous êtes maintenant banni du jeu à vie. Au revoir. » Et tout se ferme.
C'est génial. C'est génial. Oh, je suis en train de regarder la vidéo, effectivement.
C'est assez fort. C'est assez fort.
Là là.
Bon, c'est drôle. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est drôle. Bethesda a livré ses plans. Alors, il va y avoir une extension pour Starfield. Peut-être que le jeu sera jouable à ce moment, hein, enfin. J'exagère, mais avec amour. Ils ont donné leur plan pour Fallout 76 en 2024. Ils continuent Fallout 76. C'est... Enfin bon, peut-être que lui aussi, en fait, maintenant c'est un bon jeu, j'en sais rien. Et Blizzard a livré ses plans pour 2024 pour World of Warcraft. World of Warcraft seulement. Il y a tellement de trucs que World of Warcraft... ce retail se marche dessus avec World of Warcraft classique. Et c'est sans parler des autres jeux Blizzard.
Oh la vache.
Je pense qu'on va avoir du mal encore pour l'année prochaine à jouer à tout. Bon. Je crois que c'est à peu près tout pour cet épisode. On a des liens qui seront dans la newsletter qui sont hyper intéressants, des trucs sur le sampling, la manière dont ça se passe, le sampling dans le jeu vidéo, une vidéo très très bien faite que nous a partagé Johan sur le Discord. Super sympathique cette vidéo. Il y a des trucs sur les chiffres de 2023, pas que pour les licenciements, hein. Il y a aussi d'autres trucs intéressants sur lesquels on n'aura pas le temps de se pencher aujourd'hui, mais il y a un infographique aussi de gamingindustry.biz qui est très très cool et plein d'autres choses comme ça. Et je pense que c'est tout pour notre épisode. Merci Milka d'avoir été avec moi.
Merci à toi. Merci beaucoup. C'était très très intéressant.
Un excellent moment passé en ta compagnie. Où est-ce qu'on on parlait de MGG. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi, pour te voir jouer à Dreamlight Valley, par exemple?
Nulle part. Je stream pas ou quoi que ce soit, mais. Non, sur MGG, c'est bien. Je fais beaucoup de guides, surtout, en fait. Moi, je suis plus dans la Solus. Donc, si vous avez des problèmes sur un jeu, n'hésitez pas. Voilà.
Quel est le guide de cette année dont tu es le plus fier ?
C'est Hogwarts Legacy.
Hogwarts Legacy, très bien. Voilà. Est-ce que c'est Solus ton jeu de l'année ?
Complète. Ouais, je pense. Je pense. Alors, je reconnais que c'est pas le meilleur jeu de l'année parce que bah, y a Baldur's. Il y a Zelda aussi, sur lequel j'ai beaucoup passé de temps, bien sûr. Il y a même des petits jeux indés, comme Sea of Stars et tout ça. Mais bon, voilà, en grosse fan d'Harry Potter, évidemment, que j'attendais ce jeu. Donc je suis très contente qu'il soit sorti. Je suis très contente de l'avoir platiné. Et je suis très contente d'avoir fait la soluce du jeu.
Magnifique.
Voilà.
C'est bien qu'on le mentionne aussi. Il avait fait du bruit au moment de sa sortie, mais je suis content qu'il soit resté dans le cœur des joueurs qui l'ont aimé et qu'il n'ait pas juste disparu. C'est très bien. Pour ma part, c'est Note Patrick, un petit peu partout sur Internet, vous le savez. C'est le dernier épisode normal de l'année. À partir de maintenant, je vais être pendant une bonne 10-15 jours dans 20 mètres carrés, à partir de deux jours, 20 mètres carrés avec toute la famille. Donc, ça va être super intéressant. Mais ça va être plein de chaleur de Noël et de bonheur, évidemment. On a, comme je le disais, des épisodes spéciaux pour le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu qui sont préparés. Il y a la newsletter qui arrive également. La newsletter sera en vacances, par contre, pendant ces 2-3 semaines, bien sûr. Le Discord va continuer à être actif. Et bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvjeux, pour ceux qui veulent soutenir l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous en 2024 pour un nouvel épisode. Joyeuses fêtes, bonne année et à dans 3 semaines. Bisous, bisous. Ciao.
Bonne fête.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.